Are you racist?
I am the least racist person that you have ever met. I am the least racist person.
Donc, c'est Donald Trump dans une entrevue qui dit « Je suis la personne la moins raciste que vous aurez jamais rencontrée ».
Il y en a un, Pat, qui n'est pas tout à fait en accord avec cette affirmation-là. C'est son ex-avocat, Michael Cohen, qui aujourd'hui publie un livre qui a, je dirais, des apparences carrément de règlement de compte là, envers son ancien patron. Et écoute, c'est truffé d'histoires et d'anecdotes et de déclarations absolument incendiaires attribuées à Donald Trump, incluant celle-ci au sujet des électeurs noirs et hispaniques aux États-Unis qui, selon le principal intéressé, selon à l'époque le candidat Trump, n'auraient jamais voté pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop stupides. Ça, c'est une déclaration presque verbatim. On apprend aussi dans le livre que Donald Trump aurait engagé un acteur pour interpréter Barack Obama, il était surnommé le faux Obama, pour que Donald Trump puisse stager une scène dans laquelle il critique puis congédie son prédécesseur.
Comme il congédiait des gens dans son émission The Apprentice.
T'as tout compris. Aurait aussi dit de Nelson Mandela, autre évidemment leader noir, l'ex-président sud-africain, principale figure du combat contre l'apartheid, que ce n'était pas un leader. Et écoute bien ce qu'il aurait dit au sujet de leader religieux. Donc, il n'y a pas de composante nécessairement raciale, mais il y a quand même quelque chose qui fait, je pense, écho à ce dont on parle depuis une semaine là, avec l'article de The Atlantic sur les militaires tombés au combat, les propos excessivement méprisants que Donald Trump aurait tenus à leur sujet. Et donc, dans le livre de Michael Cohen, Donald Trump, on lui attribue tout au moins là, des propos très, très, encore une fois, méprisant auprès de leaders, ou plutôt au sujet de leaders religieux qui seraient venus le rencontrer pour l'appuyer dans sa première campagne présidentielle. Trump aurait dit à Cohen, j'en reviens pas, comment est-ce qu'ils peuvent croire toute cette foutaise-là? Pardonne-moi l'anglicisme, là, vulgaire en plus, mais toute cette bullshit-là, c'est ça le mot exact qui est utilisé, en faisant référence à leur foi. Puis, oui, pour moi, il y a un écho, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est que encore une fois, c'est un mépris ouvert envers des institutions qui sont sacro-saintes aux États-Unis. Dans le cas de l'Église, en fait, c'est littéralement sacro-saint. Et surtout envers des gens qui l'appuient. Tu sais, les militaires et les leaders religieux, c'est des gens qui, tu te dis, à la base, en voyant le parcours de vie de Donald Trump, ne devraient pas nécessairement être dans ses plus grands supporters et pourtant le sont. Et regarde comment ils sont repayés en retour avec ce genre de propos-là. C'est quelque chose.
Raphaël, écoute, les gens qui écoutent nos conversations là, chaque jour à l'émission là, savent bien que je ne suis pas un fan de Donald Trump.
Mais, t'es sûr?
je te le confirme. mais je le trouve toxique. Sauf que, quant à l'avocat de l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, je vais te dire, j'ai des sérieuses réserves. Je ne te dis pas que ce n'est pas vrai, OK? Ce qu'il raconte. Mais il est resté longtemps collé sur son ancien patron. Je veux dire, quand Donald Trump disait ce que Cohen prétend avoir entendu, là, ça ne l'a pas empêché de s'en aller. Là. Au contraire, il travaillait, continuait à travailler pour Trump, il continuait à être son nettoyeur, si on veut. C'est lui qui réglait beaucoup de problèmes éthiques de son boss. Il le faisait parce que c'était bien payé. Là, il s'est fait pogner la main dans le sac, il a été inquiété par la justice, il est encore en prison. Puis là, il dit sa vérité. Je te dis pas que c'est pas vrai. Je te dis que c'est un peu tard.
Absolument. Et non seulement ça, non seulement il a gardé son emploi à l'époque, mais il faisait plus que ça. Il faisait plus que nettoyer en privé. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Mais en 2015-2016, pendant que Donald Trump avait, écoute, comment je pourrais dire, comme campagne présidentielle, c'était essentiellement une brochette d'amateurs, un de ses seuls porte-parole officiels, c'était Michael Cohen. Michael Cohen était un des seuls qui allait dans les médias majeurs américains pour défendre activement Donald Trump. Donc absolument, au niveau de la crédibilité, dans ce cas-ci, là, il n'y a pas juste Donald Trump qui en manque. Il y a aussi la personne qui l'accuse. Et d'ailleurs, ça a été la ligne tout de suite qui a été utilisée par la Maison-Blanche en fin de semaine. C'est-à-dire, ce type-là, c'est un avocat qui a été foutu dehors du barreau et complètement discrédité. Et plus que ça, c'est un criminel qui est en prison. Donc pourquoi est-ce qu'on le croirait? C'est une question qui est légitime, honnêtement. En même temps, je pense que ce qu'on peut aussi dire de l'autre côté, c'est plus une question que je vais te poser, que je pose de façon rhétorique. Est-ce qu'on peut vraiment écarter de façon catégorique la possibilité que Donald Trump ait tenu ce genre de propos-là, considérant tout ce qu'on connaît sur le bonhomme après toutes ces années-là?
T'sais? Voilà, c'est ça. C'est conséquent avec d'autres prises de position et déclarations. OK, parfait. Parle-moi de nouveaux sondages là, qui montrent que Trump, de façon surprenante, en Floride, ben, il ne serait pas battu.
Premièrement, je veux juste m'excuser à tous les auditeurs. Là, tu parles des gens qui écoutent nos conversations. Il y en a quelques-uns qui ont relevé le fait que j'ai une incapacité à prononcer le mot Floride correctement. J'ai tout le temps Floride, et c'est vrai. Et donc, je m'excuse à l'avance, c'est pas parce que je veux pas. Ça fait juste partie des choses que je pense que je suis juste pas capable de corriger. Donc, il va falloir s'y faire. En Floride, il y a un sondage, écoute, absolument remarquable, sorti aujourd'hui de NBC et du Marist College. Égalité complète, Biden 48, Donald Trump 48. Où c'est intéressant, c'est pas tant pour le résultat général, même si ça montre clairement une tendance qu'on voit depuis un petit bout de temps, là, c'est-à-dire que ça se resserre dans certains états-clés. C'est ce que ça dit quand on fouille à l'intérieur du sondage. Parce que ce qu'on apprend, c'est que par rapport à 2016, Donald Trump a coupé l'avantage des démocrates auprès des Noirs de 18 points en Floride, auprès des Hispaniques de 26 points. Et en fait, présentement, il gagne carrément le vote hispanique en Floride. Il va chercher 50% selon certains sondages, même un peu plus que ça
en
Floride.
Raphaël, traditionnellement, le vote hispanique, là, corrige-moi si je me trompe, en Floride particulièrement, il est souvent pro-républicain.
Il est plus... T'as raison. Ça, c'est excellent comme connaissance. T'as absolument raison. Il est plus républicain que dans la plupart des autres États.
À cause ou grâce aux Cubains. Là.
Exactement. À cause de l'héritage cubano-américain, beaucoup de Cubains, disons, qui n'ont pas, des opinions semblables à d'autres hispaniques par rapport au rôle du gouvernement dans la société pour des raisons, encore une fois, historiques et culturelles assez claires. Mais il reste que ce qui ne ment pas, c'est la tendance. Et la tendance, elle est sur plusieurs années. Et en fait, ce que je t'ai revérifié dans les archives aujourd'hui, c'est qu'en 2018, dans les élections de mi-mandat en Floride, il y a un sénateur démocrate qui a perdu son siège. Et pourquoi est-ce qu'il l'avait perdu? Bien, parce que il avait perdu beaucoup d'appui par rapport à ce que Hillary Clinton avait reçu au niveau présidentiel 2 ans auparavant auprès des minorités ethniques dans l'État. Et donc, écoute, on commence la conversation d'aujourd'hui, Pat, en se parlant encore une fois des propos racistes attribués à Donald Trump. On conclut la conversation en observant tout simplement que auprès des minorités ethniques, dans bien des États extrêmement importants, il est encore en train de survivre, sinon même faire mieux qu'il faisait il y a 4 ans. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont tout simplement se demander pourquoi, comment est-ce que c'est possible. Ça mériterait une chronique en soi. Je te laisserai quand même avec ceci. Il faut réaliser que c'est pas tous les gens issus des minorités ethniques qui vont se définir d'abord comme des minorités ethniques. Mm-hmm. Pour eux, il peut y avoir d'autres considérations et surtout, il peut y avoir d'autres liens culturels. Et donc, par exemple, il y a des liens culturels assez naturels qui vont se faire entre des hommes blancs noirs et noirs, pardon, qui n'ont pas d'éducation supérieure. Et d'ailleurs, c'était le rêve, entre guillemets, de Steve Bannon, l'ex-stratège de Trump, c'est-à-dire créer une espèce de grande coalition ouvrière, populiste de blancs et de noirs contre les élites. Et à la convention républicaine qu'on a vue le mois dernier, écoute, c'était frappant à quel point on a joué cette carte-là. Donc, est-ce que ça peut marcher pour Trump? On verra, mais il y a une chose qui est claire présentement, et comme je te dis, c'est pas seulement un sondage. Là, je te parle simplement du plus récent sondage qu'on a aujourd'hui, mais c'est que si Trump est en difficulté présentement, de façon absolument incroyable, c'est pas à cause des minorités ethniques. D'abord et avant tout, c'est à cause de l'électorat blanc. Donc, l'ironie ultime, c'est qu'on a le président qui est sans aucun doute le plus associé au mouvement de nationalisme blanc, de racisme même qu'on a probablement vu au moins depuis les dernières générations, qui est en voie d'obtenir à la fois peut-être un des meilleurs résultats de son parti auprès de plusieurs communautés ethniques et un des pires résultats auprès de la majorité blanche aux États-Unis. Comme quoi, c'est un pays qui est franchement complexe.
À demain, Raphaël.
À demain.